Il est 17h02 sur France Culture. Tout de suite, le magazine de la rédaction Tarach Legal. Bonsoir.
Bonsoir Anne Fauquemberg. Bonsoir à tous. On va embarquer dans ce magazine à bord des voitures sans chauffeur avec Hakim Kasmi.
La révolution vue par le grand public doit être en fait une évolution technique continue. Le véhicule autonome s'appuie sur 10 à 15 ans d'expérience et de produits déjà commercialisés, parce que rien ne remplace l'expérience réelle.
Aujourd'hui, la mobilité s'envisage sur de la multimodalité, c'est-à-dire qu'il faut combiner différents modes de transport pour pouvoir faire une seule et même trajectoire. C'est peut-être là où le saut culturel est le plus important. Différentes façons d'envisager tout simplement ces transports, mais surtout de les combiner entre eux.
Une même flotte équipée du même équipement informatique pourrait tout à fait être, dans un scénario extrême, mise sous contrôle d'un hacker malveillant, évidemment.
Qu'ils se nomment Concept I, Neuve ou Lynx, ce sont des prototypes qui font déjà rêver. Ce sont les voitures qui conduisent seules ou quasiment seules et elles pourront bientôt distraire le chauffeur, lui proposer selon l'humeur une musique, une blague, même si elles l'ont surpris en train de rire au téléphone. Honda promet ainsi de deviner l'état d'esprit de celui qui est au volant grâce à la reconnaissance faciale et de l'inviter au besoin à une pause café s'il s'est mis à bâiller. Les voitures autonomes existent déjà. Lyon teste un minibus, en Bavière une portion de l'autoroute Route A9 est ouverte aux voitures autonomes et bien entendu en Californie, les Google Cars roulent depuis 2009. Ce n'est donc plus de la science-fiction, même si cela pose toujours des questions. Technologique d'abord, les voitures savent déjà rouler, dépasser, freiner, mais elles ont du mal à oser franchir un passage piéton bondé au risque d'écraser quelqu'un. Programmées pour respecter le code de la route, elles risquent la paralysie sur un rond-point où il faudrait sans arrêt laisser la priorité aux voitures entrantes. Et puis il arrive également, dit-on, que les capteurs ne fassent pas vraiment la différence entre un gros pot de fleurs sur un trottoir et un obstacle qui serait tombé à moitié sur la route. Bref, rien ne vaut le discernement d'un conducteur. C'est bien là d'ailleurs le souci, car en cas d'urgence, il est prévu justement qu'un humain prenne le relais. Or, ce conducteur non actif peut s'ennuyer, regarder un film et risque même de s'endormir au volant. À quelle vitesse saura-t-il être opérationnel si le besoin s'en fait sentir? L'Audi 7, par exemple, est censé prévenir le conducteur 15 secondes seulement avant de lui céder le volant. Autre inquiétude des constructeurs, le conducteur du futur, peu habitué finalement à la conduite manuelle, saura-t-il avoir les bons réflexes? Et puis, ces nouveaux modes de conduite sont aussi un casse-tête pour les États. Faudra-t-il refaire les routes, réécrire le code de la route? En cas d'accident, qui sera responsable? Le conducteur distrait, le constructeur ou encore l'équipementier? Les assureurs s'arrachent déjà les cheveux. Dernier défi, il va falloir vendre ces modèles. Or, les véhicules intelligents peuvent faire peur. En mai 2016, une Tesla en pilotage automatique a conduit son passager sous les roues d'un camion sur une route de Floride. La caméra mobile Eye n'avait apparemment pas détecté le bolide qui arrivait en face. C'est le seul accident mortel à ce jour, mais forcément il fait froid dans le dos. La voiture autonome, la révolution du dernier kilomètre, c'est un magazine signé Hakim Kasmi. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, nous sommes ce soir en compagnie de Bernard Julien, qui est maître de conférence à l'Université de Bordeaux. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Et vous êtes aussi membre du GERPISA, qui est un réseau international de recherche sur l'industrie automobile. Et puis nous sommes avec François Roudier. Bonsoir monsieur.
Bonsoir.
Vous êtes porte-parole du comité des constructeurs français automobiles. Et bien sûr en studio aussi avec Hakim Kasmi. Bonsoir Hakim.
Bonsoir Tara.
On a souvent l'image, quand on parle de voitures automobiles, de la Google Car et des routes californiennes. Mais il faut quand même savoir qu'en France, un grand nombre de constructeurs sont avancés en matière de voitures autonomes.
Oui, à commencer par les constructeurs comme PSA, qui est le français le plus en avance, qui espère pouvoir commercialiser sa première voiture autonome entre 2020 et 2025. Pour atteindre son objectif, il réalise toute une série de tests à travers la France et l'Europe. Mais pour y parvenir, les constructeurs ne sont pas seuls. Comme nous l'entendrons, ils travaillent avec des équipementiers comme Valeo, qui est l'un des leaders mondiaux en ce qui concerne les radars, et les lasers qui permettent aux véhicules autonomes de pouvoir se repérer tout seuls sur les routes. Mais s'il faudra sans doute encore attendre des dizaines d'années pour avoir une voiture complètement autonome, il existe déjà des modèles intermédiaires dits semi-autonomes, capables de pouvoir rouler tout seul par exemple sur une autoroute. C'est le cas de l'américain Tesla, mais aussi de l'allemand Mercedes, qui a commercialisé il y a tout juste un an une nouvelle Classeur, une voiture qui à la base était de série, mais qui est désormais peut-être dotée en option d'un système permettant de pouvoir rouler seul. Et nous l'avons testé, cette Classeur, et bien notamment dans les rues de Paris et sur autoroute, mais pour l'instant, Tara, pas question de lâcher les mains du volant.
Et on commence votre reportage qui nous amène tout d'abord justement chez Peugeot Citroën.
Je suis avec Vincent Abadi, le maître expert du véhicule autonome pour le groupe PSA. On est donc ici devant le siège du groupe PSA, place de la Grande Armée à Paris, non loin des Champs-Élysées. Alors on est devant ce C4 Picasso rouge, hein. Et on va donc tester ce véhicule autonome du groupe. Un C4 Picasso, c'est un monospace hein, que l'on trouve aujourd'hui chez les concessionnaires, c'est l'un des plus vendus. Vincent Abadi, on va prendre ce véhicule avec vous pour partir prendre l'autoroute A13.
Oui, donc on va commencer par prendre le périphérique en mode autonome, puis effectivement nous rejoindrons l'autoroute A13 jusqu'à Versailles, puis nous reviendrons toujours en mode autonome jusqu'au siège du groupe PSA à la Grande Armée.
Alors Audrey, vous serez notre conductrice pendant ce trajet. Qu'est-ce que vous avez ressenti la première fois que vous avez pris en main ce véhicule autonome ?
Alors la première fois, donc il a fallu un petit temps d'adaptation, mais très rapidement, on a toute confiance en le véhicule et du coup, c'est très confortable, ça se passe très bien. Et voilà.
Et bon, on y va, on monte à l'intérieur ?
Allez. Allez,
on y va.
En ville, nous allons pour l'instant être en situation de conduite manuelle, le temps de rejoindre le périphérique. Et sur cette voie rapide, nous avons les autorisations pour rouler en mode complètement autonome, comme vous allez le voir. Donc, c'est-à-dire que le conducteur ne fera plus aucune action sur le véhicule. Le véhicule va se déplacer tout seul, il va freiner, accélérer, rester dans sa voie de manière complètement autonome. Donc, c'est un C4 Picasso Pro qui a quand même subi un certain nombre d'évolutions. C'est un prototype, on a rajouté un certain nombre de capteurs, toute une électronique de commande évoluée. Et à l'aide de cette électronique de commande, on est capable de transformer ce véhicule de série, on va dire, en un véhicule complètement piloté de manière automatique.
Alors là, justement, on va arriver près de la place de l'Étoile. Aujourd'hui, on pourrait le faire circuler sur la place de l'Étoile, ce véhicule ?
Alors aujourd'hui, d'une part, il y a quand même des difficultés techniques à réaliser de la conduite autonome en ville, puisque la conduite en ville est extrêmement complexe. On va trouver des piétons, des cyclistes, des routes extrêmement difficiles et variées, avec des feux rouges, des priorités, enfin tout un tas de situations complexes à gérer. Donc je dirais que techniquement, on n'est pas mûr pour être capable d'avoir un véhicule autonome qui fonctionne dans une ville comme celle de Paris. Donc c'est pour ça qu'on commence d'abord par avoir de la conduite autonome sur les voies rapides, hein, les voies qu'on appelle à chaussée séparée, c'est-à-dire pour faire simple, les autoroutes, le périphérique, les nationales. Et à partir de là, ça nous permet d'avoir des scénarios un petit peu plus simples à gérer, c'est-à-dire qu'on va éviter toute la complexité qu'on peut rencontrer dans une ville. Donc là maintenant, depuis quelques minutes, on est en mode de pilote automatique complet, c'est-à-dire que vous avez ici un véhicule qui reste dans sa voie de manière automatique, qui accélère et qui freine de manière automatique. Là, le conducteur ne fait absolument aucune action. Vous voyez, le véhicule devant nous vient de s'arrêter, on s'arrête aussi. On respecte donc une certaine distance avec le véhicule qui nous précède. Alors c'est une distance qu'on exprime en secondes en fait, puisqu'en réalité, c'est une distance qui dépend de la vitesse. Mais on est à peu près entre 1 et 2 secondes du véhicule qui nous précède.
Ce qu'il faut bien expliquer, c'est que là, le véhicule ralentit, donc il a ralenti tout seul, et il se repère par rapport au véhicule qui est devant lui, c'est ça?
Il se repère par rapport à beaucoup d'éléments, hein, par rapport au véhicule qui est devant lui, par rapport aux véhicules qui sont sur les côtés, par rapport aux lignes blanches qui sont sur le sol, et aussi par rapport aux barrières qui sont sur le côté. Donc il est capable de reconstruire complètement l'environnement tel que nous, on le voit en 3 dimensions. On fait une fusion de toutes ces données.
Pardonnez-moi, mais on a eu un gros coup de frein, pourquoi?
Oui, parce que le véhicule de devant a fait un gros coup de frein, donc le véhicule a freiné automatiquement. Vous voyez, c'est typiquement, on voit que même les freinages brusques des autres véhicules sont gérés par le système. Vous voyez, là, on a vu le camion accélérer, puis au dernier moment, il a décidé de freiner. Nous, quelque part, on a commencé à accélérer, puis on a freiné. Voilà. Donc, en fait, on gère, on va dire, les événements imprévus. Là, on était sur un événement imprévu, qui est un véhicule qui avait freiné brutalement. On l'a fait aussi.
Alors, ce qu'il faut expliquer aussi, c'est que cet ordinateur de bord, il est piloté avec toute une série de lasers, de caméras. Voilà. Il y a tout un dispositif autour du véhicule pour qu'il puisse se repérer.
C'est ça, c'est-à-dire que tout autour du véhicule, à 360 degrés, on va effectivement trouver des lasers, des radars et des caméras qui nous permettent justement de reconstituer cette vision en 3 dimensions tout autour du véhicule. Une fois qu'on a reconstitué cette vision en 3 dimensions, on a nos algorithmes d'intelligence artificielle qui reproduisent l'intelligence de l'être humain et qui font que le véhicule va se diriger de manière autonome, on va dire, sur la route sans intervention, comme c'est le cas ici du conducteur, donc que ce soit sur les volants, sur les pédales,
Alors, nous sommes donc ici à Paris devant le siège de Valeo. Valeo qui est un des plus grands équipementiers français au monde. Il travaille avec de nombreux constructeurs à travers la planète. Avec lui, nous allons voir comment il prépare le véhicule autonome, celui qui roulera à partir de 2020, qui sera commercialisé, comme celui de PSA, par exemple, avec qui il travaille déjà. Car pour rendre un véhicule autonome, il faut de nombreux équipements, à commencer par les caméras, des lasers et des scanners. Et nous allons donc voir Guillaume Devauchel, responsable du développement et de l'innovation chez Valeo.
Guillaume Devauchel, directeur de l'innovation de Valeo.
Vous-même, vous êtes équipementier depuis longtemps. Comment vous êtes organisé d'un point de vue R&D, d'un point de vue humain, pour passer des équipements classiques qu'on a sur les véhicules à carrément des équipements du futur pour des véhicules autonomes? Ça demande une véritable révolution industrielle, entre guillemets, en interne.
La révolution vue par le grand public doit être en fait une évolution technique continue. Donc, par exemple, Valeo a commencé depuis des années sur les manœuvres de parking, parce qu'on estime que c'est les manœuvres avec beaucoup de valeur ajoutée, difficiles à faire pour l'homme et sans grand intérêt. Donc on a commencé à faire les manœuvres de parking, les créneaux, donc particulièrement intéressantes en ville, puis perpendiculaires, puis une fois qu'on s'est rentré dans la place de parking, il faut savoir en sortir, et puis une fois qu'on sait faire ces manœuvres à basse vitesse, on augmente un petit peu la vitesse. Donc vous voyez que, loin d'être un objet, je dirais sans passé, le véhicule autonome s'appuie sur 10 à 15 ans d'expérience et de produits déjà commercialisés, parce que rien ne remplace l'expérience réelle.
Aujourd'hui, ça se passe comment? On a beaucoup d'algorithmes. C'est aussi comme ça que travaillent vos capteurs, vos logiciels?
Alors, il y a beaucoup d'algorithmes, mais en fait, ces algorithmes ne suffisent pas, puisque un algorithme répond de manière certaine à une situation qui a déjà été prévue. Et dans la vraie vie, il y a beaucoup de situations qui ne sont pas prévues. Donc, il faut doubler ces algorithmes de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, qui, elle, est capable de prendre des décisions dans des cas qui ne sont pas prévus.
Concrètement, on est à Paris, on n'est pas loin de la place de l'Étoile. Ici, on imagine que pour un véhicule autonome, faire le tour de la place de l'Étoile et prendre le bon sens pour aller dans une avenue, c'est un peu un vrai défi, parce qu'il y a des véhicules qui arrivent dans tous les sens. C'est pas compliqué à gérer pour un véhicule autonome?
Alors, la place de l'Étoile, ça fait partie des cas les plus difficiles, où si l'on respecte le code de la route à la lettre, on n'avance pas, puisqu'il y a forcément quelqu'un qui vient avec une priorité à droite. Donc là, il faut être capable, dans le véhicule autonome, de mettre un certain degré d'agressivité, mais qui reste sûr. Et donc, vous voyez toute la difficulté, de manière très fine, de gérer le comportement du véhicule. Donc, il ne suffit pas de respecter le code de la route, il faut être capable de l'interpréter, tout en restant dans les limites de la sécurité.
C'est aussi pour ça que, dans un premier temps, les premiers véhicules autonomes rouleront d'abord sur des chemins balisés. Il faudra encore attendre plusieurs années pour pouvoir rouler dans Paris, dans les grands centres urbains, que ce soit en France ou à l'étranger.
Alors, le cas le plus difficile, c'est Bombay, où les gens circulent dans tous les sens. Mais Paris, c'est pas mal non plus, hein. Tout le monde ne respecte pas complètement le code de la route. Donc, vous voyez que ce véhicule autonome a aussi une dimension culturelle. Si vous êtes à Paris et que vous arrêtez brutalement devant un piéton qui est arrêté devant un passage piéton mais qui ne s'apprête pas à traverser, la voiture derrière vous ne va pas comprendre et va probablement être très gênée par votre manœuvre. Si vous faites la même manœuvre à Londres et que vous ne vous arrêtez pas, alors que vous avez l'habitude de vous arrêter quand un piéton est devant un passage piéton, c'est criminel de ne pas s'arrêter. Donc vous voyez que la même situation va s'analyser différemment en fonction de la culture, pays par pays, je dirais presque ville par ville.
Vous, du coup, pour vos tests, vous partez avec vos véhicules dans le monde entier?
Alors, on a déjà réalisé un tour de France complet, un tour d'Europe complet et un tour des États-Unis. Pourquoi? Parce que les situations ne sont pas les mêmes, les habitudes ne sont pas les mêmes et le véhicule ne doit pas se comporter de la même façon.
Si les équipementiers et les constructeurs travaillent d'arrache-pied pour commercialiser dans le monde entier la voiture autonome entre 2020 et 2025, leurs recherches commencent enfin à payer, puisque l'américain Tesla et l'allemand Mercedes ont été les premiers à proposer un véhicule de série semi-autonome. Ce matin-là, nous avons rendez-vous au pied de la maison de la radio avec le responsable produit de Mercedes France. Avec lui, nous allons essayer dans Paris et sur autoroute la nouvelle classe E qui vient tout juste d'être homologuée pour rouler en mode semi-autonome. Un bijou de technologie qui pour l'instant reste destiné surtout à une clientèle aisée. Le modèle que nous avons essayé coûte pas moins de 63 000 euros.
Bonjour, Pierre-Edouard Apérou, responsable du département produit pour Mercedes-Benz France.
Vous pouvez déjà nous décrire peut-être un peu cette voiture qui est devant nous, cette Mercedes qui est à notre droite?
Alors, avec plaisir, nous sommes ici avec une Mercedes classe E, donc une berline qui a été lancée cette année, une grande routière qui est ici dans une livrée bleue avec un intérieur très clair.
Voilà, donc on monte à l'intérieur, à l'avant. Donc je suis au niveau du siège passager, à l'avant du véhicule. Comment on voit que cette voiture a évolué et qu'elle est devenue semi-autonome par rapport à l'ancienne classe E?
Alors au niveau de la console de bord, vous avez devant vous deux grands écrans de 12 pouces et puis surtout sur la partie gauche, vous avez des commandes pour actionner directement les différents éléments qui sont en rapport avec la conduite semi-autonome. Donc toute la partie assistance et régulation de vitesse et de distance par rapport au véhicule que vous précède, ou également l'assistant directionnel pour rester dans sa file et suivre les indications qui sont données sur la route.
Écoutez, je vous propose de démarrer. On est parti ?
On est parti.
Alors par exemple ici, avec vos innovations, qu'est-ce qu'on pourrait déjà utiliser dans les bouchons ?
Alors là, une fois qu'on est en circulation citadine, on peut d'ores et déjà utiliser ce qu'on appelle le drive pilot. Donc par une simple pression que je vais indiquer ici au niveau du volant, sur le levier du régulateur de vitesse, je vais indiquer la vitesse maximale à laquelle je vais rouler. Et là, de manière automatique, la classe E freine en fonction de la situation qui est présente devant elle.
Qu'est-ce que vous avez mis comme vitesse minimale en ville? Vous avez mis quoi, 30, 40?
Là, j'ai mis 50 km/h, sachant que grâce à la régulation automatique avec l'affichage des limitations de vitesse, quand nous allons arriver dans une zone 30 km/h, la voiture va automatiquement réduire sa vitesse pour s'adapter à cette zone-là.
Et comment on le sait? Parce que grâce à sa caméra, elle va lire les panneaux?
Elle a d'abord toutes les informations fournies par le GPS. Et elle a ensuite la lecture caméra pour pouvoir permettre, même dans une zone de travaux, de s'adapter à une vitesse qui ne serait pas enregistrée dans un GPS.
Alors est-ce que le danger, ce n'est pas aussi que, à force d'avoir trop d'autonomie, trop de caméras, cela ne peut pas rendre un peu le conducteur un peu trop passif des fois?
Alors, on n'est pas sur la passivité. Nous, on croit plus dans la possibilité pour le conducteur de se concentrer sur l'essentiel et sur ce qui est vraiment son environnement, sa conduite et sa volonté de travailler.
Marc Mengelbrink, président Mercedes-Benz France.
Aujourd'hui, en quoi c'est important pour les grands constructeurs mondiaux que vous êtes, vous chez Mercedes, de ne pas rater ce virage de la voiture autonome?
Déjà parce que ça augmente le niveau de sécurité et ça augmente le niveau de confort. Et c'est pour moi la future révolution dans l'automobile à côté de la vision zéro émission. Et c'est vraiment une autre façon de conduire, c'est une autre façon de se servir de sa mobilité individuelle parce que vous aurez un tas de possibilités qu'offrira cette voiture qu'aujourd'hui, elle ne peut pas vous offrir.
En termes de part de marché, selon vous, comment ça va se passer? Vous êtes tablé aujourd'hui chez Mercedes, par exemple, pour savoir combien de part de marché va représenter la voiture autonome et semi-autonome dans les prochaines années?
Aujourd'hui, Dieter Zetsche a dit que la plateforme EQ, donc qui est notre nouvelle plateforme électrique, doit représenter à peu près 25% de nos ventes, donc un quart, en 2025. Cette plateforme EQ sera aussi beaucoup plus avancée dans l'autonomie et dans la connexion. Maintenant, ça dépend beaucoup de nos clients et de l'évolution de marché. Pour nous, c'est indéniablement la direction à suivre et ce sont indéniablement les quatre technologies qui vont révolutionner la voiture, que ce soit maintenant 2020, 2025, 2030, on verra tous ensemble.
Est-ce que vous pensez que vous pouvez attirer d'autres clients qui aujourd'hui, par exemple, n'ont pas de voiture, ne s'intéressent pas à la voiture, grâce à la voiture autonome ?
Certainement, parce que aujourd'hui, quand nous analysons les espaces urbains, beaucoup de gens se refusent aujourd'hui l'achat d'une voiture, même s'ils ont très très envie, parce que les places de parking sont de plus en plus rares. Demain, avec une voiture parfaitement connectée, autonome, je peux très bien m'imaginer qu'elle se gare en dehors de la ville et vers 5h, elle commence à se diriger vers la ville pour m'aller chercher chez moi à 6h30 pour m'amener au travail. Et demain, ça sera la réalité dans les grandes villes et aussi en province.
La sécurité reste l'obsession des ingénieurs. Si la voiture autonome devrait réduire considérablement les accidents, 90% d'entre eux étant liés à des erreurs humaines, les marques savent qu'elles vont devoir aussi gagner le pari de la fiabilité. Pour y parvenir et rassurer les conducteurs qui vont devoir changer complètement leurs habitudes, c'est toute la filière de la recherche française qui est mobilisée. Certains constructeurs, d'ailleurs comme Renault, se sont même associés au CEA, le commissariat à l'énergie atomique, qui bénéficie d'un savoir-faire unique que n'ont pas forcément les équipementiers et les constructeurs automobiles. Alors nous sommes désormais ici à Palaiseau, sur l'un des sites du CEA. Il y a 800 personnes qui travaillent ici, notamment en intelligence artificielle, comme nous allons le voir. Et nous sommes avec Philippe Watteau. Philippe Watteau, bonjour.
Bonjour, bienvenue. Je suis directeur du CEADIST. Hein. Le CEADIST, c'est l'entité de recherche du CEA, fort de presque 16 000 personnes, et qui se concentre sur les technologies du numérique et de la robotique.
Et alors vous, votre nouveau fort, c'est notamment une caméra qui peut détecter des humains qu'on mettra en place sur les futures voitures autonomes.
Voilà, absolument une caméra intelligente avec un logiciel embarqué sur cette caméra qui permet de réaliser cette distinction personne humaine versus tout autre objet qui est un des premiers pas du véhicule autonome.
Eh bien, on y va, on va voir cette fameuse caméra.
Allons-y. Donc en fait, le CEADIST a développé des technologies qui permettent, dans des images vidéo, de reconnaître, sans se tromper, les personnes humaines. C'est absolument important pour une voiture autonome de distinguer dans son environnement une personne humaine de tout autre objet. Aujourd'hui, avec les technologies de deep learning, on est capable de développer des algorithmes qui, quasiment sans faille, peuvent distinguer un humain, quelle que soit aussi sa position, de tout autre objet. Quand je dis quelle que soit sa position, évidemment, il faut aussi être capable de reconnaître l'humain dans tous les cas de figure, quand il traverse une rue, mais pas seulement, quand il est aussi assis, quand il est éventuellement aussi allongé sur la chaussée. Ce sont autant de cas de figure tout à fait distincts qu'il faut être capable d'inventorier, de caractériser, de simuler, d'enregistrer dans une base de données et grâce aux technologies de deep learning, de reconnaître à coup sûr.
Alors là, typiquement, si on mettait une table là, ou une chaise, la caméra ferait la différence ?
J'ai mieux que ça, j'ai un porte-manteau qui est presque aussi grand que vous. Alors là, on met le porte-manteau. Alors le porte-manteau, il est reconnu comme n'étant pas une personne humaine. On a mis aussi une chaise, vous voyez. Et même constat, la chaise est reconnue comme un objet non humain, donc pas détection de personne humaine. Par contre, si vous vous asseyez sur la chaise...
Alors je saute sur la chaise. Voilà. Et on se met face à la caméra.
Eh bien voilà, là, vous êtes reconnu. Donc c'est la démonstration de la parfaite distinction par le système intelligent d'un objet et d'un humain.
L'enjeu est de taille pour la caméra parce que, comme je suis assis sur la chaise, il y a deux choses à identifier en même temps.
Absolument, il y a deux choses à identifier et c'est ce que fait le système sans aucune ambiguïté.
Alors en l'occurrence, il n'y avait que la chaise, du coup l'engin s'arrêterait quand même ou pas ?
Ah non, tant pis pour la chaise.
Alors nous sommes donc ici arrivés à Lyon, gare Lapardieu, et nous allons partir à la rencontre de Pascal Jackson, qui est le directeur régional de Keolis. Keolis qui est l'opérateur de transport ici à Lyon, qui exploite le métro, le tramway, les bus, mais aussi une navette autonome, une première en France. Car cette petite navette, comme nous allons le voir, eh bien, permet de transporter des passagers gratuitement pour l'instant. Car la mairie de Lyon a mis cette navette à titre expérimental à la disposition des Lyonnais, notamment dans le quartier de Confluence. C'est là-bas que nous allons nous rendre, un quartier qui avant, il n'y a pas grand-chose, c'était des friches. Et aujourd'hui, de grandes entreprises y sont installées. Et donc, nous allons voir cette nouvelle navette qui est révolutionnaire, car Lyon a été la première ville en France à installer une navette autonome dédiée au public. Pascal Jackson, bonjour.
Bonjour.
Alors, on est avec vous ici dans ce quartier de Confluence à Lyon. On est devant cette navette avec vous. Est-ce que vous pouvez nous la décrire un petit peu, cette navette dans laquelle on va monter ?
Bah écoutez, c'est un minibus qui est très arrondi, hein, qui ressemble un peu à un œuf avec une partie vitrée dans toute la partie haute et même un toit vitré, ce qui permet d'avoir une très très bonne luminosité. Ça permet aussi aux voyageurs de voir tout autour. Hein, et comme il n'y a pas de conducteur, bah, y a des banquettes tout autour à l'intérieur. Voilà, donc on en a deux actuellement qui font un service régulier, donc un départ toutes les 15 minutes en heure de pointe et puis 30 minutes en heure creuse, qui permet de recharger en électricité puisque c'est une navette qui est totalement électrique.
Monsieur Jackson, on démarre là, on démarre, on avance et on roule.
Pour l'instant, on est dans une zone où il y a un certain nombre de piétons, puis on va tourner sur la gauche le long de la Saône pour desservir donc des entreprises qui sont implantées le long de l'itinéraire. Cette ligne a été créée pour ça.
Alors c'est très impressionnant car là, on est en train de rouler, on est au moins à 20 km/h.
Voilà, on est à 13-14 km/h, on peut aller jusqu'à 25 km/h, mais comme cette navette a trois systèmes de sécurité différents, elle peut effectivement freiner un peu brutalement à certains moments. Donc pour l'instant, on a limité la vitesse volontairement à 14 km/h.
Alors cette navette, comment elle fait pour se repérer? Parce que là, on est tout seul, on est dans Lyon. Comment elle connaît exactement le chemin qu'elle a à parcourir?
On a repéré l'itinéraire, on lui a appris l'itinéraire et elle a mémorisé avec trois systèmes de localisation différentes. Elle fait une image trois dimensions de tout ce qui l'entoure et ensuite elle se repère par rapport à ça. Il y a aussi un système de repérage par GPS et puis il y a un troisième système par comptage de tour de roue et c'est une précision d'un centimètre. Alors on va tourner sur la gauche, là on est passé entre le centre commercial Confluence et la Darse, qu'on appelle la Darse, ce plan d'eau là qui est le long du centre commercial, et on est en train de tourner à gauche pour longer le Rhône et on va passer entre les différents bâtiments qui sont sur notre gauche et la Saône qui est sur la droite.
Alors ce qui est très impressionnant, c'est que cette navette qui est autonome, hein, eh bien respecte les virages, respecte les piétons, et elle tourne toute seule pour suivre son parcours vraiment, comme vous le disiez, hein, elle suit son parcours au centimètre près.
Voilà, et en fait, il y a deux niveaux de repérage. Il y a le repérage par rapport à l'itinéraire normal, hein, qui a été calibré, et ensuite il y a un repérage par rapport à tout ce qui bouge autour de la navette. Donc si vous avez un piéton ou un cycliste qui fait un écart et qui risque de croiser l'itinéraire, et ben la navette va interpréter sa trajectoire et va réagir en fonction de ça. Donc on a un très haut niveau de sécurité. On a voulu mettre en place, bien sûr, cette expérimentation depuis septembre dernier, avec le maximum de sécurité. Voilà, c'est pour ça qu'on vous demande d'être assis, parce qu'elle peut freiner brutalement si quelqu'un croisait l'itinéraire. C'est un projet qui est mené en partenariat entre cette société Navia, qui est une société lyonnaise, et le groupe Keolis, qui est un grand opérateur de transport de voyageurs dans le monde entier. Voilà. Et on a un partenariat pour déployer ce type de solution de transport nouvelle dans différents pays, mais ça a été en premier à Lyon, on a voulu que ça soit en premier à Lyon.
Navia est un projet 100% français.
Karine Doniensos, vice-présidente de la métropole de Lyon, en charge de l'innovation.
Et il se trouve que l'acteur qui est à l'origine de ce projet est une société qui est sur la métropole de Lyon, plus précisément à Villeurbanne. Ils ont commencé il y a déjà plusieurs années avec cette idée que la mobilité demain devait s'envisager sans chauffeur, plus autonome, plus propre. Donc avec des véhicules électriques. Et puis, ils se sont intéressés à ce besoin qui est le dernier kilomètre, ce que l'on peut connaître aussi dans le monde de la logistique, c'est-à-dire ces distances qui sont un peu entre deux, que vous ne pouvez pas forcément faire en bus, que vous ne pouvez pas forcément faire en tram, qui parfois paraissent un peu trop longues à pied. Et c'est tout l'objet aujourd'hui de Navia, qui a été mis en place en tant que première mondiale véhicule électrique autonome, en tant que transport public sur ce quartier de la Confluence, pour faire une distance d'un peu plus d'un kilomètre, 1,3 km plus exactement.
Pour la métropole que vous êtes, quel est votre rôle dans ce projet à vous ?
Le rôle de la métropole a déjà été de prendre le risque de cette expérimentation, d'en créer les conditions, c'est-à-dire que nous avons fait en sorte que les administrations puissent donner leur accord pour cette mise en service d'un véhicule autonome sans chauffeur, puisqu'aujourd'hui les textes ne le prévoient pas. Cette expérimentation a le soutien du ministère à l'échelle nationale. C'est une expérimentation qui a une valeur nationale, dont nous pouvons être fiers, puisqu'encore une fois, c'est 100% français. Avec pourtant des discussions à l'international, puisqu'encore récemment, Navia a été mis en place lors du grand salon CES à Las Vegas. Et tout ça s'appuie sur le fruit de l'expérimentation qui a lieu ici, dans la métropole lyonnaise.
Pour vous, quel sera l'avenir justement de cette navette autonome, que ce soit à Lyon ou ailleurs ?
Aujourd'hui, la mobilité s'envisage sur de la multimodalité. C'est-à-dire qu'il faut combiner différents modes de transport pour pouvoir faire une seule et même trajectoire. C'est peut-être là où le saut culturel est le plus important. C'est en effet aujourd'hui la façon dont on doit concevoir la mobilité sur du multimodal, c'est-à-dire différentes façons de se déplacer à la fois en vélo, en transport en commun, avoir une partie du trajet sur de l'autopartage, du covoiturage. Nous avons aujourd'hui à l'échelle de la métropole près de 20 000 utilisateurs sur des solutions de covoiturage. Des navettes de transport public électrique, différentes façons d'envisager tout simplement ces transports, mais surtout de les combiner entre eux.
Alors après avoir vu comment les constructeurs et les équipementiers travaillait à mettre en place la voiture autonome qui devrait être commercialisée d'ici 2025. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens, notamment en termes d'assurance. Qui sera responsable en cas d'accident? L'équipementier, le constructeur ou encore le conducteur? C'est pour répondre à toutes ces questions que nous sommes désormais ici au siège d'AXA à Paris, rue Matignon, dans le quartier des ministères. Et nous allons donc, pour pouvoir répondre en partie à ces questions, partir à la rencontre d'Hélène Chauveau, responsable du véhicule autonome ici chez AXA.
Bonjour, je suis Hélène Chauveau, je suis responsable des risques émergents chez AXA.
Aujourd'hui, avec une voiture autonome, on a beaucoup d'équipements, beaucoup de nouveaux intervenants qui n'existaient pas forcément avant. On a des lasers, on a des lidars, des radars. Ça posait aussi la question de la responsabilité en cas d'accident. Qui sera responsable?
Oui, totalement. Donc, d'un schéma simple où le conducteur est présumé responsable à tout moment, puisqu'il doit être en possession de son véhicule. Là, on passe à un schéma beaucoup plus complexe qui aboutira forcément à une recherche en responsabilité, notamment alors soit du constructeur automobile, soit du fournisseur du logiciel lui-même. Nous, ce qui nous importe, c'est de protéger à tout moment les passagers de ce véhicule-là, mais aussi les piétons ou toute autre personne qui peut se trouver sur la route. On voit notamment au niveau de l'Union européenne que ces discussions-là ont déjà lieu, dans le cadre notamment de l'intelligence artificielle.
Alors on sait qu'il va aussi falloir revoir la Convention de Vienne, faite par l'ONU, qui impose le fait que les conducteurs doivent impérativement avoir les mains sur le volant lorsqu'ils conduisent. Là, avec une voiture qui roule toute seule, il va falloir aussi un peu changer les choses.
Mais probablement qu'en fait, dans ce cadre-là, de stade final d'évolution de la voiture autonome, où elle est totalement autonome, finalement le conducteur devient un passager de cette voiture. Donc la Convention de Vienne devient obsolète par définition. Il faudra probablement la compléter avec d'autres modèles.
L'un des risques que va engendrer la voiture autonome, et ça on a du mal à l'imaginer, ce sont ce qu'on appelle les cyberattaques, car ces voitures qui sont bardées de technologies, d'algorithmes, d'informatique peuvent très bien être attaquées. Et là aussi, il y a un véritable enjeu de sécurité auquel vous allez devoir répondre, vous en tant qu'assureur.
C'est un des scénarios qu'on envisage et qui vient changer complètement la donne sur ces véhicules autonomes, puisque une même flotte équipée du même équipement informatique pourrait tout à fait être, dans un scénario extrême, mise sous contrôle d'un hacker, malveillant évidemment. Alors pour s'y préparer, on travaille sur ce qu'on appelle des scénarios, on fait des stress scénarios, on imagine le pire et on vérifie qu'on est bien en mesure de couvrir nos assurés en termes de capacité d'un assureur à couvrir le risque associé, et donc on est capable de le couvrir à tout moment. Aujourd'hui, on a bien cette capacité-là, néanmoins, ça s'accompagne nécessairement d'une adaptation du niveau de prime.
Qu'est-ce que ça pourrait donner d'avoir une cyberattaque sur les véhicules autonomes?
J'allais dire au mieux des véhicules qui sont inutilisables, qui ne peuvent plus bouger, et puis au pire, des véhicules qui créent des accidents en masse, qui sont par exemple tous détournés vers une même cible, etc. Enfin, on peut imaginer des choses assez catastrophiques, avec un impact très fort pour un assureur tel que nous, qui serions impactés aussi bien sur les victimes elles-mêmes de l'accident, les conducteurs, etc. Comme on est en risque émergent, on est sur des sujets qui sont très prospectifs. J'allais dire qu'on essaye de se faire peur, mais d'abord pour se rassurer et pour rassurer les personnes qui sont en charge de ces sujets de souscription au sein de l'entreprise, pour garantir qu'on peut à tout moment couvrir nos assurés.
Mais si les véhicules autonomes sont développés surtout à des fins civiles, ils pourraient bien avoir aussi un avenir dans le secteur militaire, notamment pour du transport de troupes et de matériel, ou encore pour des missions de reconnaissance et de surveillance. Certains acteurs comme Safran y travaillent déjà. Thierry Dupoux, bonjour.
Bonjour.
Alors ici on est à Massy, donc sur l'un des sites de Safran. C'est là qu'on travaille notamment sur tout ce qui est véhicule autonome, on va le voir avec vous. Et on va donc aller voir ce véhicule militaire pour lequel vous travaillez, parce que aujourd'hui le but c'est d'avoir des véhicules qui puissent être autonomes pour assurer la sécurité des troupes qui sont en opération. Alors est-ce que vous pouvez nous décrire un peu où est-ce qu'on est ici concrètement?
Alors ici vous êtes sur un des deux grands sites de R&D de Safran Electronics and Defense. C'est ici que se développe et s'intègre le véhicule autonome que nous avons développé pour les applications militaires dans le contexte de la coopération que nous avons engagé avec Valeo et PSA, ce véhicule étant la configuration militaire des véhicules autonomes proposés demain aux véhicules, grand public. L'autonomie et l'autonomisation des véhicules militaires est un sujet qui, en termes de complexité, est un cran au-dessus du problème d'autonomisation des véhicules civils. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de pouvoir partager avec nos partenaires industriels, PSA et Valeo, pour justement avoir une démarche un peu incrémentale, traiter d'abord des solutions qui sont peut-être plus simples à traiter, un véhicule de jour sur une autoroute, et puis plus complexe, un véhicule dans un environnement urbain, et puis de nuit, et puis en tout terrain, à la fin, d'un contexte qui est un contexte militaire, où là, l'importance de la compréhension de l'environnement est encore plus critique, puisque cet environnement, il est, par définition, jamais le même, toujours différent, et surtout sans forcément repère de marquage, de panneaux ou de route. Donc on voit bien qu'il y a une échelle de complexité qui est couverte, et c'est bien une force de pouvoir travailler avec des équipementiers automobiles et des constructeurs automobiles sur ces sujets-là pour avancer ensemble.
Alors on y va, Thierry Dupoux ? On va le voir, ce véhicule ?
Allez, on y va. Donc voilà, le hangar s'ouvre.
Voilà, là, pour expliquer, on arrive dans le hangar. Donc on a une grande porte de garage, on est dans un garage qui s'ouvre.
Voilà, on est vraiment dans un véhicule qui s'apparente à un buggy. Comme je vous le disais, c'est un véhicule totalement électrique, 4 roues motrices. C'est bien un véhicule autonomisé, dronisé, pour offrir au groupe de combat, aux sections, grâce à ce véhicule, un appui, la capacité de projeter ce véhicule vers l'avant, de l'envoyer faire une reconnaissance de manière autonome, de demander à ce véhicule de suivre son soldat et donc de porter sa charge, d'éviter de le charger, ce qu'on appelle le mode follow me. Donc tout un tas de fonctions de ce type-là qu'on a développées. Et l'idée de l'électrique, donc ce gabarit de véhicule se prêtait bien à ce genre de développement et de démonstration. Ce véhicule peut être envoyé de manière totalement autonome, parcourir ce chemin, s'arrêter, faire des observations, acquérir des images sans personne à bord et donc en préservant la vie des soldats, en les exposant pas en tout cas pour aller faire ces observations et cette prise de renseignements. Donc c'est une des fonctions possibles avec ce véhicule. Imaginez un soldat qui a toujours beaucoup de choses sur le dos, pouvoir se décharger de sa charge principale en l'installant dans le véhicule et ce véhicule suivant le soldat qui est à pied, qui marche et qui est suivi par le véhicule, qui a accroché son maître, j'allais dire, comme un chien le ferait, et qui le suit. Et une des dernières fonctions, peut-être, qu'on peut noter, est celle d'une surveillance automatique, c'est-à-dire imaginer un camp improvisé dans un pays possiblement hostile. Soit vous avez des soldats qui montent la garde toute la nuit, soit vous avez un véhicule qui est capable, sur la base d'un parcours qui lui a été défini ou d'un parcours qu'on a fait avec le véhicule et un pilote à bord et qu'il est capable de reproduire à l'identique autant de fois qu'on veut, bah, qui va être toute la nuit être capable de faire le rondier, de tourner autour du camp, de faire des observations, de détecter des bruits, d'observer des choses, de signaler des alertes et donc de protéger le camp. Donc c'est aussi une fonction qui est accessible avec ce véhicule.
Et bon, on y va, on va monter à l'intérieur parce qu'il fait froid. C'est l'hiver, il fait...
C'est vrai qu'il fait froid.
Près de 0 degré.
Vous voyez dans quelles conditions on travaille. Voilà. Donc voilà, la boue, les feuilles, les herbes qui montrent que ce n'est pas un véhicule de salon mais bien un véhicule opérationnel.
Et bon, on est parti, on monte à l'intérieur.
Allons-y. Allez-y, installez-vous.
Alors on a mis les ceintures, là c'est bon, on est parti. Voilà, et donc on est donc sur un terrain dédié pour l'entraînement avec ce véhicule électrique. On va le voir, il y aura des bosses et de fortes inclinaisons. Le terrain devient très accidenté et là on commence à avoir un grand taux d'inclinaison. Et le véhicule est incliné à quasiment 30 degrés sur le côté, hein, ce qui est considérable pour un véhicule de ce type. Et le but c'est bien sûr qu'il ne se retourne pas. En attendant de pouvoir se déplacer n'importe où et n'importe quand avec un véhicule autonome, il faudra sans doute encore attendre des dizaines d'années. La voiture sans conducteur, qui a longtemps été un rêve, n'en est qu'à ses premiers balbutiements. Au-delà de l'aspect technologique, il reste encore un gros travail législatif, car sur le plan juridique, de nombreuses questions restent en suspens. Enfin, d'autres bouleversements sont à prévoir, sur le plan sociétal notamment. À terme, son utilisation sera diversifiée, ce qui offrira de nouvelles opportunités encore méconnues aujourd'hui.
Vous écoutez le magazine de la rédaction sur France Culture, La voiture autonome, la révolution du dernier kilomètre. C'était un magazine signé Hakim Kasmi, réalisé par Jean-François Braun. Pour écouter et commenter ce magazine de la rédaction, eh bien, nous sommes toujours en compagnie de l'économiste et maître de conférence à l'Université de Bordeaux, Bernard Julien, et aussi de François Roudier, qui est porte-parole du comité des constructeurs français automobiles. Alors, peut-être une première question. On a bien compris quand même en écoutant le magazine de Hakim que la voiture autonome, elle existe déjà, mais en réalité, comme il le dit si bien à la fin, le vrai véhicule autonome capable de rouler partout n'est peut-être pas pour demain. Enfin, vous allez peut-être nous dire dans quel laps de temps vous pouvez l'imaginer. Mais d'ores et déjà, d'après vous, première question peut-être à vous Bernard Julien, à quoi peut servir ou peuvent servir les véhicules autonomes aujourd'hui? On va passer juste sur l'exemple de Lyon qu'on a entendu, mais à part cette navette qui existe à Lyon, à quoi peuvent-ils vraiment servir pour l'instant?
Le problème économiquement, hein, c'est évidemment de pouvoir se passer de chauffeur. C'est pour ça que Keolis s'intéresse à ce point aux navettes. On a entendu qu'évidemment Uber, qui n'aime guère ses chauffeurs, est intéressé par le véhicule autonome pour les mêmes raisons. Hein, et par conséquent, plus encore que dans le domaine du véhicule particulier, c'est dans le domaine du bus ou du poids lourd que la solvabilité du marché est la plus avérée. Donc aujourd'hui.
Par contre, un poids lourd, ça peut être dangereux. Enfin, on en parlera tout à l'heure, mais moi, oui, j'imagine un poids lourd sans chauffeur, ça fait encore plus.
Toujours de la même manière, si vous voulez, en situation de conduite relativement simple du type autoroute, bah, vous économisez éventuellement des heures de chauffeur, ou au lieu que le temps de travail soit payé à 100%, il n'est plus payé qu'à 50%. Donc c'est ça, finalement, qui va rendre l'affaire attirante. Tout le problème dans le domaine du véhicule particulier, c'était évoqué dans le reportage à travers la classe E qui vaut 65 000 euros, c'est de savoir quel est le degré de solvabilité de la demande d'autonomie, hein, et à quelle vitesse. Les investissements lourds désormais consentis par les constructeurs dans ces domaines-là vont être susceptibles d'être amortis.
Alors on va parler bien sûr économie tout à l'heure. François Roudier, on imagine du côté des constructeurs dont vous faites partie, quelle utilisation, disons, parce qu'on parle de 2020, donc dans les 3-4 ans qui viennent déjà, 3-4 ans qui viennent pour ces voitures autonomes?
L'utilisation, comme vient de le dire Bernard Julien, c'est l'utilisation tout public. C'est-à-dire qu'il faut passer d'un prototype de laboratoire à la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, c'est-à-dire la Clio, la 208, voilà. Et c'est à ce moment-là qu'on aura vraiment atteint le vrai véhicule autonome. Alors attention, il y a plusieurs degrés dans l'autonomie, hein. Vous avez déjà en vente des véhicules qui sont quasi autonomes. Vous devez garder les mains sur le volant, sinon ça se met à hurler dans la voiture. Mais par contre, le véhicule freine à votre place, suit les lignes blanches. J'en ai fait l'expérience, vous voyez, le premier de l'an, en revenant dans du brouillard de Dijon sur Paris. J'avais une 3008, cette 3008 était équipée. Bah, par deux fois, elle a freiné avant moi. Le logiciel a été plus intelligent que François
Roudier. Vous vous apprêtiez à freiner quand elle l'a fait.
Elle l'a fait avant moi. Donc ça, c'est important pour la sécurité.
Ouais, une question de Hakim Kasmi.
Alors, la sécurité, justement, vous en parliez, François Roudier. L'un des buts aussi de cette voiture autonome, c'est de réduire le nombre d'accidents. Ça fera gagner de l'argent, surtout des vies. Hein. Et on le sait, aujourd'hui, 90% des accidents, en général, sont d'origine humaine. Là aussi, on devrait avoir, si tout se passe bien, une véritable révolution à ce niveau-là.
Ah oui, c'est une révolution. Alors, vous parlez de révolution, oui. Ce que dit le président de Renault et de Nissan, Carlos Ghosn, zéro émission, zéro mort. C'est ça l'avenir de l'automobile. Vous dites tout à fait la chose importante. C'est la notion de révolution. On change quelque chose. On change de paradigme complètement dans la mobilité et donc dans l'automobile. Hein, et notre enjeu est, je dirais, de faire mentir Schumpeter, hein, dans sa célèbre citation sur le nouveau existe à côté de l'ancien et le concurrence jusqu'à le ruiner. Non. Il faut qu'on reste là. Donc je crois que toute l'approche est liée à ça. Et vous voyez dans le reportage qui est très bien fait, où on a à la fois une révolution numérique, pour pas dire digitale, qui sonne trop américain, une révolution numérique dans le produit, mais dans les usages. Tout va ensemble. Et ces voitures, un jour, il va falloir aussi les réparer, savoir les vendre. Donc vous voyez, on est dans un bouleversement complet. Et sur la sécurité, eh bien, on va atteindre ce qu'on a réussi à atteindre avec les avions. Depuis que les avions sont en pilotage automatique, on a des accidents complètement...
Bernard Julien, quel va être notre rapport, justement, à cette voiture? Vous êtes membre du GERPISA, où sont réunis des chercheurs qui travaillent en tant que sociologues. Enfin, vous êtes être économiste, mais qui ont un regard de sciences humaines sur le monde de l'automobile, est-ce qu'on va avoir le même rapport à la voiture autonome qu'on l'a à nos véhicules qu'on domine aujourd'hui?
Alors, je pense que De Vauchel disait une chose assez juste, hein, c'est que la révolution en matière automobile, comme dans beaucoup de domaines, elle est beaucoup plus incrémentale et progressive qu'on ne veut le voir. Hein. Il est clair que l'ensemble des aides à la conduite que nous avons vécues depuis 15 ans nous prépare et prépare à la fois les constructeurs et les équipementiers à franchir des seuils qui progressivement font que il est relativement logique et normal pour les usagers de déléguer une partie des tâches de conduite au véhicule. Hein, on le fait déjà avec les régulateurs de vitesse. Sur le freinage, il y a une partie du freinage d'urgence qui est assurée par la voiture elle-même, etc. Donc il y a une dimension assez progressive. Alors l'autre élément qui est important, me semble-t-il, dans le rapport à la voiture, c'est que d'ores et déjà, les chauffeurs, on le voit très bien dans Paris, on le voit très bien sur le périphérique, font autre chose que conduire en étant en voiture. Donc il va falloir que les constructeurs,
par exemple, certains,
quand ils vendront des voitures, il faudra que le constructeur s'adresse moins au conducteur qu'au passager conducteur. C'est l'ensemble des choses qu'il va pouvoir faire à bord de manière légale désormais. Hein, et autrement dit, c'est au-delà du poste de conduite, la vie à bord qui va devenir l'argument clé sur le plan marketing, à condition bien évidemment que François Roudier et raison, et que les constructeurs restent à la tête de tout cela, hein, parce que cet espace à vivre, il peut tout à fait être un espace public, hein, si jamais bah, on cessait de vendre des voitures aux ménages et on ne vendait que des services gérés par d'autres.
Oui, hein, donc aujourd'hui, des transports en commun d'une nouvelle sorte. Oui, une question de Hakim Kasmi.
Alors, Bernard Julien, il y a aussi la dimension sociologique au sens où aujourd'hui, pendant très longtemps, la voiture a été un outil, un objet de valorisation sociale. Ça pourrait changer parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ne vont plus forcément acheter une voiture pour dire j'ai de l'argent, j'ai une belle voiture, une belle bagnole, comme on disait avant, entre guillemets, car aujourd'hui, eh bien, ça va changer. Aujourd'hui, on pourrait très bien avoir des voitures pour se déplacer, pour travailler, peut-être avoir un bureau roulant. Tout ça va changer d'un point de vue sociologique à travers le monde.
Alors, d'un point de vue sociologique, j'entends hein, ce discours-là qui était effectivement omniprésent aujourd'hui, et en même temps, comme économiste, je vois mal quel est le modèle qui permettrait de financer ces flottes-là. Hein, je ne pense pas que Keolis, pas plus qu'Uber, ne soit en mesure aujourd'hui de financer l'acquisition de ces flottes de véhicules dont nous aurions besoin. Hein, par conséquent, je suis, peut-être est-ce l'effet de mon âge avancé, hein, mais je suis assez sceptique quant à la capacité qu'on aurait demain de voir des flottes publiques accomplir nous assurer la mobilité qu'aujourd'hui on ne sait gérer qu'ainsi. Hein, les constructeurs, ils ont quand même besoin que quelqu'un achète les voitures qui sortent de leurs usines.
C'est une vraie question.
Et seuls les particuliers sont aujourd'hui en mesure d'assurer l'essentiel des débouchés.
François Roudier, alors justement, en matière, si on parle un peu de technologie et puis peut-être frein technologique ou au contraire grandes avancées possibles, là on a parlé dans le reportage un peu des radars, des lidars, enfin des choses qui équipent justement ces voitures du futur. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Par exemple, le lidar, alors personnellement, je ne sais pas vraiment ce que c'est, ça équipe apparemment les Google Cars, ça coûte quand même extrêmement cher. Voilà, quelles sont les avancées, dernières avancées dans ce domaine?
Alors c'est extrêmement complexe et on va faire s'effondrer l'audience si je me développe des points très techniques, mais je crois qu'il faut résumer en pensant que la voiture dite autonome vit avec des yeux, elle regarde, elle écoute et elle a son intelligence artificielle, elle a sa propre intelligence. Et c'est dit dans le reportage, la voiture se guide sur le GPS. Et ce qu'il faut surtout comprendre, et ça c'est extrêmement important, c'est que la voiture autonome ne vit pas toute seule. Elle vit comme dans une ruche. C'est une ruche avec des abeilles qui sont les voitures autonomes. Et elles communiquent entre elles et elles incrémentent leur intelligence artificielle. On a eu une présentation du patron des voitures autonomes chez Nissan, qui était un Américain, et qui nous expliquait comment, était à Las Vegas au CES, comment la recherche de Nissan travaille avec le laboratoire de la NASA qui est en train de préparer le robot qui va être sur Mars. Tout simplement parce que ce robot, à un moment, doit être autonome, mais à un moment, peut tomber sur des problèmes absolument insurmontables. Et donc, il a besoin d'un référent humain. Donc, Nissan a dit, nous, on pense que la voiture autonome, elle aura aussi un jour besoin d'un référent humain. Parce qu'il y a des problèmes qui apparaissent compliqués pour une voiture, qui pour nous sont très simples. Mais la voiture va interroger ce référent humain, et après, les autres voitures vont bénéficier de cette augmentation d'intelligence. Donc, c'est vraiment tous les systèmes techniques qui sont mis en place pour que l'intelligence artificielle, qu'on voit se développer un peu partout, vous avez vu qu'une intelligence artificielle a gagné une partie de poker, ce qui était absolument impossible. Mais il faut que tout ça se développe dans l'automobile qui est mobile, donc qui, avec la vitesse, apporte des contraintes énormes.
Alors vous parliez du CES, le Computer Electronic Show, qui se tient à Las Vegas, là, qui s'est tenu il y a très très peu de temps, et on y a vu notamment des modèles dont l'intérieur de la voiture a été équipé par Google, par Apple, etc., avec des choses extrêmement sophistiquées. Je me tourne vers vous, Bernard Julien, est-ce qu'il risque d'y avoir une concurrence entre les constructeurs proprement dit et ceux qui vont équiper justement l'intérieur de ces voitures intelligentes?
Alors, on l'a beaucoup dit, on l'a cru essentiellement il y a 2 ans, hein, et c'est vrai que Google a été un peu la mouche du coche dans cette affaire-là, puisque les constructeurs ont vraiment démarré les annonces quand ils ont été mis en demeure de le faire en quelque sorte. Et puis depuis un peu plus d'un an, on s'aperçoit que Apple comme Google font plutôt marche in arrière hein, quant à leur prétention à fabriquer des véhicules. Hein, ce que De Vauchel disait encore est assez juste, hein, c'est-à-dire qu'il y a quand même une expérience de très long terme accumulée dans la conception des véhicules et des équipements qui est assez irremplaçable. Hein, et effectivement, comme le reportage le montrait, hein, Safran, le CEA doivent être en quelque sorte hybridés avec les compétences des constructeurs parce qu'il y a toute une partie des algorithmiques, etc., qui sont plutôt chez eux que chez les constructeurs, mais il y a quand même un cœur de compétences qui reste plutôt
mais
dans l'industrie.
Mais en termes de pas de part de marché, mais de répartition
de la valeur.
De la valeur, ben, qui va gagner? On a une petite idée?
C'est ça que je veux répondre, Monsieur Roudier. La bataille se situe là. Les nouveaux entrants dans l'industrie automobile sont de nouveaux équipementiers. Mais ils s'appellent Nvidia, ils s'appellent Qualcomm, des gens qui vivaient dans un autre monde et qui maintenant ont un poids critique dans l'industrie automobile. La valeur ajoutée est en train de se modifier. C'est-à-dire que vous aviez, je pense, à une industrie allemande extrêmement pointue dans la technologie automobile qui maintenant est dépendante de l'industrie américaine, parce que ces boîtes sont américaines, sur l'intelligence artificielle. Derrière, le constructeur, vous comprenez, il veut rester l'architecte.
Une question de Hakim.
Alors justement, ce qu'il faut expliquer, on parlait de ces nouveaux entrants, de ces équipementiers. Aujourd'hui, l'enjeu est tellement compliqué qu'on a des spécialistes de l'aviation, notamment de l'avionique, comme Safran ou encore AKA Technologies, qui justement sont les seuls à pouvoir permettre d'avoir des systèmes de repérage, car ce qu'il faut expliquer, notamment en zone urbaine, ce qu'on appelle les canyons urbains, quand il y a beaucoup de bâtiments ou dans un tunnel, la voiture autonome, pour l'instant, n'arrive plus à se repérer car il n'y a plus de faisceau pour le GPS. Et justement, ces nouveaux entrants bénéficient de ces technologies-là, car dans un avion, par exemple, lorsqu'on est sur l'Atlantique, on n'a plus de GPS, c'est ce qu'on appelle les centrales inertielles, qui permettent aux avions de se repérer. Et est-ce que du coup, avec toute cette nouvelle technologie, cela ne va pas engendrer un surcoût pour ces voitures autonomes lorsque les particuliers devront les acheter?
Monsieur Roudier.
Écoutez, les technologies de l'aéronautique et de la défense hein, qui arrivent dans l'automobile, des fois, ne sont pas applicables pour ces questions de coût. Hein, vous aviez un exemple simple, c'était le composite. Le composite aéronautique était absolument impossible à utiliser dans l'automobile parce qu'il est trop cher. Donc, c'est à nous de développer, avec ces sociétés-là, des systèmes spéciaux qui sont plus fiables, parce qu'on peut pas avoir des systèmes redondants comme dans l'aéronautique, plus fiables et moins chers. Toute la bataille, après, va être de faire du volume. Donc, dans votre reportage, vous expliquiez très bien qu'une voiture roulée, une voiture de 63 000 euros, il faut mieux, pour acquérir de l'expérience, avoir beaucoup de voitures de 9 000 euros et réduire les coûts, comme on le fait dans l'industrie automobile depuis Henry Ford. Hein.
Oui. Alors même si justement chez Mercedes, ce qu'on leur a posé la question justement, on leur a bien expliqué que comment faire, c'est pas donné
à tout le monde.
Alors la réponse chez Mercedes, c'est de dire oui, mais ces technologies qui pour l'instant sont des modèles très haut de gamme, sont destinées dans les prochaines années, comme avant par exemple l'ABS ou l'airbag, à arriver sur les modèles de série. Aujourd'hui, toutes les voitures ont des airbags ou la climatisation.
Alors question à Bernard Julien justement.
Oui, alors je pense que sans duplicité, les constructeurs adorent parler de sécurité pour cette raison-là, hein, puisque les constructeurs et les équipementiers. La meilleure manière de faire en sorte que les coûts baissent, c'est de dire la sécurité impose que tous les véhicules en soient équipés, de rendre ainsi le dispositif obligatoire. Et là où il n'y a pas de demande client, on introduit une demande réglementaire et du coup, au lieu d'en vendre sur 50 000 voitures de très haut de gamme, on en vend sur 13 millions de véhicules en Europe et de fait les coûts baissent. Hein, mais c'est vrai que dès lors que vous avez cette demande-là, en même temps que les coûts de dépollution sont en train d'exploser, en même temps qu'on est en train d'exiger les véhicules électriques, il y a quand même un très sérieux problème de solvabilité de la demande. Si aujourd'hui, les ménages français achètent à un véhicule sur 6, 9 et 5 véhicules sur 6 d'occasion, c'est bien qu'on a un problème de prix de vente. Et par conséquent, ceci milite pour une implémentation plutôt très progressive et assez lente de ces technologies, très exigeantes et très incertaines, mais aussi extrêmement onéreuses à installer.
Ça veut dire que vous imaginez vraiment que le parc automobile ne changera pas dans les 5, 6, 7 prochaines années ?
Le parc automobile, il se renouvelle aujourd'hui à raison de 5 à 6% l'an. Si sur ces 6%, vous en avez 10% qui sont autonomes, vous voyez bien que on a quelque chose qui est extrêmement incrémental. Et de surcroît, il faut quand même que vos véhicules autonomes coexistent avec des véhicules qui ne le seront pas, toute chose qui évidemment rend la révolution pour le moins progressive.
Oui, est-ce que vous êtes d'accord ? Ce sera sans doute la conclusion, François Roudier.
Oui, tout à fait. Le top
vous êtes
un
peu optimiste finalement, parce que vous êtes
Non, mais je crois qu'on partage tout à fait les mêmes idées. Il faut que le top de la technologie cohabite avec la R19 de Marcel Chambard à Cône d'Allier. Et le problème va être là. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut que nos politiques comprennent que la question du parc ancien va devenir d'autant plus critique qu'on va avoir deux catégories de gens. Ceux qui auront les voitures autonomes, sûres et qui consomment peu, et puis les autres. Donc là, on a des enjeux qui nous dépassent, nous, petits constructeurs.
Bon, mais en tout cas, c'est un dossier qu'on va pouvoir suivre, évidemment, dans les années à venir. Merci beaucoup, Bernard Julien, économiste à l'Université de Bordeaux. Merci, François Roudier. Vous êtes du côté des constructeurs français d'avoir participé à ce magazine de la rédaction, signé Hakim Kasmi, réalisé ce soir par Jean-François Braun. Merci à tous les deux. À la technique, Anthony Thomasson. Vous pouvez réécouter cette émission dès demain sur notre antenne, pendant 1000 jours sur Internet, la podcaster aussi pendant un an et la commenter sur notre site franceculture.fr.